Au livre d'Ésaïe, chapitre 53, nous avons vu que cette prophétie contient cinq strophes, cinq portions. Aujourd'hui, nous avons la quatrième portion. Ce sont les versets 7 à 9 d'Ésaïe 53. Donc, on pourrait dire la plus grande prophétie de la Bible contient cinq strophes. On a maintenant la quatrième strophe devant nous, dans les versets 7 à 9. Il a été opprimé, ou dans la note, tourmenté, maltraité et affligé. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a pas ouvert sa bouche. Il est ôté de l'angoisse et du jugement. Et sa génération, qui la racontera? Car il a été retranché de la terre des vivants à cause de la transgression de mon peuple. Lui a été frappé et on lui donna son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche dans sa mort parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa mort. Jusqu'ici, la lecture de la parole. Je ne peux pas répéter tout ce que nous avons vu sur ces trois strophes du chapitre 53, mais je donne un résumé en rapport avec les souffrances. On ne peut jamais être trop occupé des souffrances du Seigneur Jésus. Et une des choses qui nous frappe vraiment dans ce chapitre, ce sont les aspects différents des souffrances du Seigneur Jésus. J'ai mentionné déjà au début, une fois, dans toutes les prophéties concernant le serviteur de l'Éternel, il y a un élément de ses souffrances. Mais cet élément de ses souffrances augmente. Chapitre 42, il y avait déjà une indication, surtout si on le traduit un peu différemment. Chapitre 49, chapitre 50, déjà beaucoup plus clair. Mais ici, en chapitre 52, verset 13, jusqu'à 53 à la fin, on a vraiment un tableau des souffrances du Seigneur Jésus. Et ce que j'aimerais suggérer, si vous connaissez ou si vous étudiez les sacrifices différents dans l'Ancien Testament qui nous parlent de ce sacrifice, vous allez voir des détails dans ce chapitre. Ce chapitre, pour ainsi dire, résume dans un seul chapitre, c'est concentré, pour ainsi dire, résume tous ces aspects différents du sacrifice du Seigneur Jésus. Ou pour donner un autre exemple, nous avons quatre évangiles. Et de ces quatre évangiles, nous avons des éléments concernant les souffrances du Seigneur Jésus qu'on a ici dans cette prophétie, ce seul tableau. Je l'ai comparé avec un diamant qui brille, qui montre des couleurs différentes ou des gloires différentes. C'est aussi comme un amas stellaire, d'étoiles, qui montre chacune une gloire différente. Vous savez peut-être que chaque étoile a une couleur spéciale. Toutes les étoiles ont des couleurs différentes. Mais ici, dans ce chapitre 53, on pourrait dire que le Seigneur Jésus brille, pas seulement comme une étoile, il est le soleil, comme nous le savons, mais ce sont beaucoup d'étoiles différentes, avec des couleurs différentes qui sont mises ensemble dans un seul chapitre. En rapport avec les souffrances, j'ai mentionné la dernière fois l'exemple de cette mère qui avait sauvé la vie de son garçon et sa main brûlée était le signe de son amour. Ainsi, dans ce chapitre 53, nous avons beaucoup de signes de l'amour du Seigneur Jésus, des signes qui restent pour toujours. Comme il était transpercé, par exemple, ses marques dans ses mains et dans son côté, dans ses pieds, on les verra pour toujours, les signes de son amour. C'est aussi un chapitre plein de paradoxes, de contrastes. Et aussi, ce matin, cet après-midi, on va voir quelques contrastes aussi dans le passage que nous avons lu. Mais ce que j'aimerais juste résumer, ce sont les aspects différents des souffrances du Seigneur Jésus. Juste un résumé bref. Chapitre 52, verset 13 à 15, nous avons vu ces souffrances comme une introduction à sa gloire. Donc, chapitre 52, verset 13. 14, surtout, montre déjà ses souffrances. Mais c'est pour présenter sa gloire ou ses gloires après. On a parlé de ça, donc je ne peux pas répéter ça maintenant. Juste pour résumer, les souffrances comme introduction à sa gloire. chapitre 53, versets 1 à 3, c'était donc la deuxième partie, nous avons vu ses souffrances parce qu'il était inconnu et méprisé. Un autre aspect de ses souffrances, et beaucoup de détails même. La dernière fois, on a eu versets 4 à 6, là nous avons vu ses souffrances expiatoires, des souffrances qu'il a endurées sous la main de Dieu. On peut dire, versets 1 à 3, ce sont ses souffrances incompris, maltraités par les hommes, et même chapitre, verset 4 pourrait référer à ça au début, mais dans ce passage, versets 4 à 6, c'est plutôt les souffrances expiatoires du Seigneur Jésus, donc ce qu'il a enduré de la main de Dieu dans ces trois heures sombres de la croix. Le passage que nous avons aujourd'hui, versets 7 à 9, parle aussi de ses souffrances, d'un côté de la part de l'homme, mais aussi l'intervention de Dieu. Comment Dieu est intervenu pour protéger le Seigneur Jésus, pour l'ôter de cette angoisse, de ce jugement. Donc, d'un côté, les souffrances, de nouveau, mais l'intervention de Dieu. Les hommes voulaient l'avoir comme leur victime, pour ainsi dire, on en parlera, pour le mettre avec les méchants, mais Dieu est intervenu pour lui donner son sépulcre avec le riche. La prochaine fois, Dieu voulant, si le Seigneur nous laisse encore ici, le restant du chapitre nous parle de ses souffrances, mais aussi de ses résultats, les résultats bénéfiques pour nous, les résultats merveilleux pour la gloire de Dieu. C'est vraiment ces derniers versets, c'est rempli des conséquences, des résultats de l'œuvre du Seigneur Jésus. Mais sur la base de ses souffrances. De nouveau, on va voir ses souffrances. Une autre chose que j'aimerais remarquer maintenant, en général, deux points. J'ai mentionné déjà, une fois, en parlant du verset 2, que là, on voit quelque chose de l'offrande de gâteau. On a des offrandes différentes dans l'Ancien Testament. Et toutes ces offrandes ensemble, tous ces sacrifices ensemble, nous parlent d'une façon ou d'une autre des souffrances du Seigneur Jésus, de son œuvre, de sa personne. Et ce que j'aimerais suggérer ici, dans ce chapitre, on a tous ces sacrifices, on a des références à tous ces sacrifices. Juste brièvement, on a vu donc l'offrande de gâteau, les souffrances du Seigneur Jésus pendant sa vie. On a vu comment il a vécu pour la gloire de Dieu dans un désert, pour ainsi dire, dans une terre aride. Il est monté, il a vécu là pour la gloire de Dieu, mais du côté de l'homme, il était méprisé. Et on a dans Lévitique 2, trois cas différents qui nous parlent de ces souffrances cachées, que le croyant maintenant peut comprendre un peu, mais ce sont des souffrances pendant sa vie. Aussi le verset 7, il a été opprimé et affligé, pas encore ensemble avec ça. C'est la fin de sa vie, où il était maltraité par ses juges, maltraité par les chefs du peuple, mais ce n'est pas encore la croix. On a aussi le sacrifice pour le péché, c'est mentionné expressément dans le verset 10, au milieu du verset 10, « S'il livre son âme en sacrifice pour le péché. » C'est donc un autre aspect de son œuvre, mais c'est maintenant en rapport avec l'œuvre de la croix. Cette personne merveilleuse qui était l'offrande de gâteau toute sa vie pour être le délice de Dieu, c'est lui qui a livré son âme en sacrifice pour le péché. Qu'est-ce que ça veut dire, le sacrifice pour le péché? Là, le Seigneur Jésus a pris la place du pécheur. Notez bien, il n'est pas devenu pécheur, jamais, mais il a pris la place du pécheur devant Dieu. Et la dernière fois, on a parlé un peu de cette œuvre expiatoire qu'il a accomplie comme sacrifice pour le péché. Dans l'Ancien Testament, on a ce sacrifice pour le péché. J'ai référé à Lévitique 16, ce grand jour de la propitiation. Mais on a aussi beaucoup d'autres passages qui nous parlent de ce sacrifice pour le péché. Mais on pourrait ajouter aussi le sacrifice pour les péchés. Le Seigneur Jésus a payé la dette, pour ainsi dire, que nous avions envers Dieu. Il a payé la dette de chaque péché. Et ainsi, il est devenu aussi le sacrifice pour les délits. Ceux qui étaient placés sous la loi, tout leur péché était des transgressions. On a des références aussi dans ce chapitre à tous ces aspects différents de nos péchés, vous voyez, nos langueurs, nos douleurs. On peut aussi penser à notre état physique, mais ça implique aussi la question du péché. Nos transgressions, nos iniquités, nous étions errants, on suivit notre propre chemin, notre propre volonté. L'iniquité de nous tous, c'est une autre expression que le prophète utilise. la transgression de mon peuple, là c'est au singulier, leurs iniquités, c'est au pluriel, et puis le péché de plusieurs, là c'est de nouveau au singulier. Vous voyez, le Seigneur Jésus n'a pas seulement pris le fardeau de tout le péché et a repayé la dette. On en parlera la prochaine fois, Dieu voulant, en rapport avec le sacrifice ou les délits, parce qu'il a repayé à Dieu beaucoup plus que la dette était. Mais il s'est identifié aussi avec notre état pécheur, et l'expression sacrifice pour le péché implique ceci aussi. Il s'est identifié avec notre état pécheur. Quelle chose horrible pour le Saint de Dieu d'être fait péché. Ça, c'est le sacrifice pour le péché. Juste quelques versets dans ce chapitre, donc versets 4 à 6, nous parlent de ce sacrifice pour le péché. Le verset 10, comme j'ai mentionné déjà, et aussi le verset 8b, à cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. C'est aussi une référence au sacrifice pour le péché. Donc vous voyez beaucoup de références à ce, et aussi à la fin du chapitre. Il était aussi l'Holocauste. C'est juste le contraire. Vous voyez ce que le sacrifice pour le péché a fait. Lui était sans dette, incoupable, innocent, sans tâche. Il a pris toute notre dette. Il a pris ses péchés sur lui, les a confessés et ainsi les a ôtés devant Dieu. Dans l'Holocauste, on voit juste le contraire. Il était pur et les conséquences de son œuvre sont maintenant pour nous. On le voit dans la peau que le sacrificateur a reçue, la peau de l'Holocauste. Avec la peau de l'Holocauste, il était agréable devant Dieu. Donc ce que Dieu a fait avec nous, c'est sur la base de l'Holocauste. Il nous a déclaré juste et agréable devant lui, sans aucun. Maintenant, je suggère, verset 7, il y a une référence à l'Holocauste, parce que l'agneau était le sacrifice pour l'Holocauste. Je vais revenir à ce point-là un peu plus loin, en rapport avec Genèse 22. Là, on voit Isaac comme l'agneau, ou comme l'Holocauste. Et aussi dans le verset 10, nous avons une référence à ce sacrifice. Il plut à l'Éternel. Le plaisir de l'Éternel est lié à l'Holocauste. On en parlera la prochaine fois encore, Dieu voulant. Et puis, il y avait le sacrifice de prospérité. Le sacrifice de prospérité, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus, mais pas seulement pour Dieu, mais ce que Dieu peut partager maintenant avec les saints, avec son peuple. Et dans le verset 12, surtout, on va voir ça. Une part avec les grains. Là, on voit ce que le Seigneur partage avec nous. Et donc, le fruit ou le résultat du sacrifice, prospérité, toutes les bénédictions, tous les résultats sont maintenant partagés. Ça, c'est la pensée du sacrifice de prospérité. Il y a aussi d'autres illustrations dans l'Ancien Testament qu'on revoit dans ce chapitre. Je le mentionne juste brièvement et après ça, on va continuer avec notre verset 7. C'est dans les matériaux utilisés pour le tabernacle. Bien évidemment, on a des matériaux qui ne sont pas mentionnés littéralement ici, mais leur signification morale, on retrouve ici. Juste brièvement, verset 2, j'ai mentionné déjà les pots de tessons. Le tabernacle, ce qu'on a vu extérieurement, c'était les pots de tessons. Ce qu'on a vu à l'extérieur. Et qu'est-ce que le prophète dit, verset, ou la confession plutôt du reste futur, il n'y a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Ce sont les peaux de tessons. Mais en dessous de ces peaux de tessons, il y avait d'autres couvertures. Et pour Dieu, ce que Dieu a vu de l'intérieur du tabernacle, et aussi le sacrificateur d'ailleurs, c'était la gloire du Seigneur Jésus. Si vous étudiez Exode 26, vous allez le voir. Là, on voit ces gloires dans ce tabernacle, appelé le tabernacle, où on voit l'homme céleste, l'écarlate, et aussi l'écarlate, le roi, et le pourpre, et aussi le fin lin. Toutes ces qualités, toutes ces étoffes parlent des qualités du Seigneur Jésus. Et nous, par la grâce de Dieu, nous pouvons voir maintenant, par l'œil de la foi, ces qualités merveilleuses. Et j'aimerais suggérer, dans ce chapitre, on voit aussi ces qualités ici. L'homme céleste, l'homme qui est venu du ciel, l'homme qui a souffert, le roi qui a souffert, l'homme saint et juste qui a souffert. Le prophète, il était le vrai prophète, le vrai serviteur, on l'a dans ce chapitre, comme dans Marc. Vous voyez, tous ces aspects différents, on voit dans ce chapitre. Il y avait une autre couverture, les peaux de bélier teintes en rouge, qui nous parle de sa consécration. C'est le secret, vous voyez, le secret de ses souffrances. Pourquoi il a enduré tout ceci? parce qu'il était dévoué à Dieu, entièrement dévoué à Dieu. C'est ça qu'on voit de nouveau dans ce chapitre. Ce sont les peaux du bélier teint en rouge, consacrées à Dieu jusqu'à la mort, et même dans la mort. Et puis, une autre couverture qui était mentionnée, qui nous parle de sa séparation, la tente de poils de chair. Dans Exode 26, vous allez voir la tente de poils de chair. Et les chèvres nous parlent du péché. Le Seigneur Jésus était séparé du péché, mais on a cette expression dans ce chapitre, il a livré son âme en sacrifice pour le péché. En même temps, il a donc accompli une œuvre pour ôter ses péchés. Séparé des pécheurs, il est devenu le sacrifice pour le péché. Donc, tous ces aspects différents qu'on a dans ce chapitre, et on retrouve donc beaucoup de détails dans d'autres passages de la parole. Comme j'ai dit, dans les sacrifices, dans Lévitique, Exode, Nombre, d'autres passages, dans ces étoffes, ces matériaux dans le tabernacle et dans les évangiles. Maintenant, on va continuer avec le verset 7. J'aimerais suggérer le passage qu'on a aujourd'hui, c'est la soumission du Seigneur Jésus et sa délivrance. La soumission d'un côté, sa délivrance, l'intervention de Dieu de notre côté. Il a été opprimé. La note le dit déjà, tourmenté, maltraité. Ici, c'est encore dans sa vie. Et j'aimerais penser à ce verset dans Zacharie 13, verset 6. Toutes ces blessures avec lesquelles il était frappé dans la maison de ses amis. C'est bon, pendant sa vie. On voit ici la dureté avec laquelle les hommes l'ont traité et maltraité. Avec cette dureté, Pilate, Hérode, Anne, Caïphe l'ont traité. Le même mot peut être traduit aussi serré. On retrouve ce mot aussi en rapport avec les actions futures de l'Antichrist. Comment il va maltraiter le résidu. On voit la même pensée en rapport avec le Pharaon. Comment il a maltraité le peuple de Dieu. Cette attitude de dureté, on voit du côté de l'homme envers le Seigneur Jésus. Dans le verset. Et affligé, ça nous parle de cet aspect de soumission. Il était soumis à tout ça. Affligé, ça nous montre une certaine passivité. On peut dire aussi humilié, sous la main de l'homme. Donc, ce que l'homme a fait, le Seigneur Jésus ne s'est pas révolté. C'est aussi une leçon pratique. On a vu déjà la première fois, lorsqu'on a parlé de ce chapitre, il y a beaucoup de leçons pratiques en même temps, comme Pierre le cite aussi dans 1 Pierre 2. Il y a beaucoup de leçons pratiques. Si les hommes nous outragent, nous oppriment, nous tourmentent, quelle serait notre réaction? Est-ce qu'on aurait la même réaction du Seigneur Jésus? Il est vraiment notre exemple en même temps, comme un vrai serviteur. Puis le prophète continue à dire, il n'a pas ouvert sa bouche. Ça nous montre donc sa douceur dans cette situation. Il avait ouvert sa bouche, vous voyez, en grâce. Luc 4, il a parlé et les gens étaient étonnés de ces paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il a ouvert sa bouche, Matthieu 5, pour donner les lois du royaume de Dieu, tout cela. Maintenant, il n'a pas ouvert sa bouche. Pourquoi? Vous voyez, si le Seigneur Jésus avait ouvert sa bouche, ce serait pour condamner tous ces juges, tous ces gens-là qui l'ont entouré. Mais c'était le plan de Dieu qu'il soit le sacrifice. Et ainsi, il s'est soumis aux hommes, mais aussi au plan de Dieu. Et j'aimerais citer en rapport avec ceci, un verset très connu dans Matthieu 11. Il a dit, oui, Père. Cette attitude, on voit dans ce verset-là. Il a dit, oui, Père. Il était soumis aux hommes, à ses actions méchantes de l'homme. Mais en même temps, il était soumis au plan de Dieu, qui était en arrière de toutes ses actions. Dieu l'a permis. Et vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus va ouvrir sa bouche, une autre fois, ce sera dans Apocalypse 19, on lit que de sa bouche sort une épée tranchante, deux côtés. Avec cette épée, il va frapper tous ses ennemis. Quelle chose solennelle. Et si le Seigneur Jésus avait ouvert sa bouche, ce serait pour condamner ses ennemis, mais dans ce cas-là, on serait perdu aussi. Par contre, il a suivi ce chemin d'humiliation. C'était enfin pour nous délivrer et pour nous racheter. Donc, il n'a pas ouvert sa bouche. J'ai oublié, vous pouvez vérifier ça pour vous-même, le mot affligé, on trouve souvent aussi dans d'autres passages de la parole. Dans Deutéronome 8, le peuple de Dieu était humilié. C'est le même mot. Humilié dans le chemin du désert. Mais c'était pour produire quelque chose de bon. Dans le psaume 88, psaume qui nous parle des souffrances du Seigneur Jésus. dans le titre, les anneaux, c'est la même pensée. Affliction. Et dans ce psaume, on voit les afflictions. Dans le psaume 132, on voit les afflictions de David, une image de notre Seigneur Jésus. Donc on peut penser, en rapport avec ce mot affligé, à toutes ces afflictions. Vous voyez, si vous allez prendre une concordance, un même mot ouvre, pourrait se dire, un océan de pensées en rapport avec les afflictions du Seigneur. Puis, il a été amené comme un agneau. Maintenant, la quatrième pensée dans ce verset-là, amené comme un agneau. Donc, l'agneau, c'est un animal qui est utilisé pour l'Holocauste. La première fois qu'on le trouve, c'est dans Genèse 22. L'agneau, n'est-ce pas, que Dieu avait prévu pour lui-même, comme Abraham l'a dit. C'est le même mot aussi qu'on trouve dans Exode 12, l'agneau pascal. Exode 13, l'agneau qui a pris la place du premier-né après la délivrance d'Égypte. Donc, l'agneau pascal. Et quelle illustration touchante pour nous. Si les enfants connaissent déjà l'histoire d'Exode 12, l'agneau pascal qui était pris dans les maisons. Imaginons un petit agneau pris dans les maisons. Il ne s'est pas révolté, il s'est soumis. C'est l'attitude du Seigneur Jésus qu'on a ici. Une attitude de soumission pour prendre notre place, mais aussi pour être ce sacrifice, cet holocauste. Exode 29 nous parle de cet holocauste, ces deux agneaux, l'agneau du matin, l'agneau pour le sacrifice du soir, c'est une référence pour l'œuvre à la personne du Seigneur Jésus, à son œuvre. L'agneau de Dieu, Jean 1. Vous voyez, il y a beaucoup de passages qui nous parlent de cet agneau. 1 Pierre 1, son sein et aussi son attitude. Et puis, amené, il était conduit. De nouveau, cette passivité apparente. Parce que vous voyez, extérieurement peut-être, le Seigneur Jésus était passif là. Mais en même temps, il a souffert, il a maintenu la gloire de Dieu, maintenu les droits de Dieu. Il a pris cette place volontairement. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Ça, c'est donc son activité, cette apparence passive, mais en même temps très active, parce qu'il l'a fait volontairement. Là, on voit sa perfection de nouveau, cette position qu'il a prise volontairement. Il n'a pas ouvert sa bouche pour se défendre, qu'il le sent pour lui-même. Et à la fin, c'est répéter et revenir à ça encore une fois. Donc, en ce qui concerne les illustrations que la parole de Dieu utilise, un agneau ici, ou un peu plus loin, une brebis, on voit déjà dans la création que Dieu a préparé certains animaux pour que ces animaux puissent fonctionner comme des images de notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était aussi le lion. On voit d'autres aspects dans le lion. Et vous voyez, le Seigneur Jésus était aussi le berger. C'est une pensée qui nous frappe. On le voit ici comme l'agneau et comme la brebis, et en même temps, il était le berger. Et le berger a donné sa vie pour les brebis. Là, les brebis sont une image de nous-mêmes. Donc, les images, les illustrations dans la parole de Dieu sont très riches. Et déjà dans la création, Dieu a préparé ces images pour nous instruire. Il y a une référence dans Jérémie, si vous voulez le lire chez vous, Jérémie 11, verset 19 et suivant. Jérémie parle de ce que le peuple a fait envers lui, comment il était aussi un agneau amené à la boucherie. Mais là, on voit en même temps le contraste avec l'attitude du Seigneur Jésus. Mais là, Jérémie est vraiment aussi une image de notre Seigneur Jésus dans ses souffrances, mais liée à ce résidu. Si vous voulez étudier, il y a beaucoup de passages dans les psaumes et aussi dans Jérémie 11, que j'ai mentionné, où on voit le Seigneur Jésus, soit directement, par son esprit, associé avec ce respire d'air qui va souffrir. Mais il y a quand même une distinction. Lorsqu'on prend par exemple le psaume 69, quelquefois c'est uniquement le Seigneur Jésus, quelquefois c'est le Seigneur Jésus ensemble avec son peuple ou avec ce respire d'air. Il n'avait pas de péché en lui. Il n'a pas connu le péché. Quand même, il est mort la mort du pécheur. Quelque chose d'incompréhensible, de nouveau, un paradoxe. Sans péché, mort la mort du pécheur. Mais vous voyez, il n'est jamais devenu pécheur non plus. Même s'il était là à la croix, il n'était pas là comme pécheur. Même s'il a porté là les fardeaux de nos péchés, il n'est jamais devenu pécheur. Autrement, il n'aurait pas pu être l'Holocauste. Par contre, il a été fait péché. Nous avons vu la dernière fois, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, fait péché. Il est resté saint et sans tache, même lorsqu'il s'est identifié avec notre état pécheur. On ne peut pas comprendre ces profondeurs, ces ténèbres, ces 3 heures sombres à la croix pour souffrir. Vous ne pouvez pas comprendre quelle chose horrible c'était pour le Seigneur Jésus. Une autre chose, on entend quelquefois que le Seigneur Jésus, après sa mort, est allé en enfer. C'est même dans un décret, là, pour 3 jours. Non, l'œuvre du Seigneur Jésus était accomplie. Lorsqu'il a dit « c'est accompli », c'était accompli. Ce n'était pas nécessaire qu'il souffre encore dans l'enfer. Par contre, d'ailleurs, il n'y a aucune personne dans l'enfer. Il n'était jamais dans l'enfer. C'était une place préparée pour les diables. Donc, l'œuvre accomplie, c'était accompli pour toujours, rien à ajouter. Et Dieu était satisfait par son sacrifice, comme on espère voir la prochaine fois. Comment Dieu a montré sa satisfaction. Maintenant, pour continuer avec notre verset 8, qui nous parle donc de l'intervention de Dieu. Il est ôté de l'angoisse et du jugement. Ou on pourrait traduire ôté de la prison. Il était dans la prison de ce que les hommes ont fait. Serré, on a vu déjà. Mais aussi ôté du jugement. Il faut réaliser que le Seigneur Jésus était soumis et à ces jugements illégaux des Juifs. Il y avait 6 sessions qui étaient illégales. D'abord devant Anne, puis devant Caïphe, puis de nouveau, je pense, devant un des souverains sacrificateurs, devant Ponce Pilate, devant Hérode, de nouveau devant Ponce Pilate, c'était 6 sessions. Et les sessions des tribunaux pendant la nuit étaient interdites. Donc c'était des sessions illégales. Le Seigneur Jésus, malgré ceci, n'a pas ouvert sa bouche. Mais vous voyez, il était aussi soumis à l'exécution de ce jugement. Le verdict que les hommes ont prononcé sur lui était exécuté à la croix. Mais ici, on a une référence à ce que Dieu a fait. Donc d'un côté, on voit toujours ce que l'homme a fait, et de l'autre côté, on voit ce que Dieu a fait, comment Dieu est intervenu pour son serviteur. Je donne un exemple. Lorsque le Seigneur Jésus est mort à la croix, les souverains sacrificateurs voulait avoir son corps, on le voit plus tard aussi dans le verset 9, on lui donna son sépulcre avec les méchants. Il avait préparé son sépulcre avec les méchants, à revenir à ça. Mais Dieu a préparé Nicodème et Joseph d'Arimathée pour demander son corps. Puis les chefs sont venus plus tard, on peut le lire dans Matthieu 27, puis il était trop tard. Pilate avait donné déjà le corps du Seigneur Jésus à ses 2 disciples. Là, c'est l'intervention de Dieu. Cette expression comme telle, il est ôté de l'angoisse et du jugement, c'est donc très clair que Dieu intervient ici. Et aussi l'autre expression qui est parallèle, retranché. Il a été retranché de la terre des vivants. Ça nous montre d'un côté l'œuvre de l'homme et de l'autre côté l'œuvre de Dieu. On a la même expression dans Daniel 9, verset 26, je vais juste le lire, où on voit que apparemment, tout était en vain. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Donc, on pourrait dire, d'un côté, c'est de la part de l'homme. Les hommes l'ont retranché. Les hommes ne voulaient pas avoir le Messie. Et c'était tout en vain. Déjà dans Matthieu 11, il le mentionne. Apparemment en vain. Isaïe 49 aussi. Mais de l'autre côté, c'est Dieu qui l'a retranché. Dans le psaume 102, on a une expression semblable et on va revenir à ça plus tard en rapport avec sa génération. Retranché aussi de la part de Dieu. Dieu est intervenu. C'est donc important de voir toujours ces 2 côtés. Un peu plus loin, nous lisons « À cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. » Maintenant, on voit de nouveau un aspect de ses souffrances donc. On l'a mentionné déjà au verset 4, hein. Le mot « frapper » ici veut dire une plaie, frappé par une plaie. Il était considéré comme un lépreux pendant sa vie. Et ici, il était frappé par Dieu lui-même. De nouveau, une référence au sacrifice pour le péché. Quelle chose horrible pour le Seigneur Jésus d'avoir ce sort frappé par Dieu. Zacharie, j'ai mentionné Zacharie 13, frappé par ses amis, dans la maison de ses amis, du côté de l'homme. Mais ce qui est beaucoup plus grave pour lui, beaucoup plus solennel, frappé par Dieu lui-même, l'épée de Dieu était réveillée pour le frapper à cause de la transgression de mon peuple. On voit de nouveau ici que le serviteur est distingué du peuple. Les Juifs disent aujourd'hui,
Le peuple, c'est le serviteur.
Non, c'est impossible. Ce verset nous montre ceci clairement. C'était pour son peuple que le serviteur a souffert, à cause de la transgression de son peuple. Et le prophète s'identifie avec son peuple ici, devant Dieu. Une autre pensée en rapport avec la fin du verset 8, « Car il a été retranché de la terre des vivants. » C'était une chose horrible pour un juif d'être retranché de la terre des vivants. On le voit dans la vie d'Ézéchias. Ézéchias, le roi, est devenu malade jusqu'à la mort. Il ne voulait pas mourir. Et on peut le lire dans Ésaïe 36 à 39, comment il exprime sa douleur, à cause du fait qu'il devait être retranché avant le temps soit venu vraiment. Mais ainsi, le Seigneur Jésus, sa vie était coupée, pour ainsi dire, à l'âge de 33 ans. Au milieu de ses jours, dans le psaume 102, il est dit, ne monte pas au milieu de mes jours. C'était quelque chose d'horrible pour un juif. Vous voyez, une longue vie était une preuve du fait que Dieu, de l'approbation de Dieu. Donc, le fait que sa vie était retranchée ici pourrait suggérer qu'il n'avait pas l'approbation de Dieu. Vous voyez? Donc, c'était quelque chose d'horrible pour lui que sa vie soit retranchée si tôt, parce que tout avait l'apparence qu'il n'avait pas l'approbation de Dieu. Et dans le psaume 102, en même temps, on voit que Dieu maintient sa gloire. Il était Dieu lui-même. Quoique sa vie soit prise au milieu de ses jours, il était Dieu dès l'éternité et pour toujours. Si vous voulez lire le psaume 102, versets 24 et suivants, vous pouvez voir ce mystère, parce que c'est un mystère. Dans Actes 8, ce verset est cité d'une autre façon. Là, on lit que dans son humiliation, Dieu l'a répondu, puis là, on voit sa génération. Cette question, sa génération, qui la racontera? On pourrait dire ici, sa génération réfère d'abord au fait qu'il était retranché. Donc, son âge, on pourrait compter, 33 ans, quoique les Juifs supposaient qu'il avait déjà l'âge de 50, autour de 50, dans Jean 8, on peut le voir. Mais ce verset nous montre en même temps ce mystère, comme le psaume 102, qu'il était dès l'éternité, sa génération, qui la racontera? Mais il y a aussi une autre façon de le voir. Sa génération, on va voir ça la prochaine fois, Dieu voulant, on peut voir, il a maintenant une famille. Ici-bas, sur la terre, le Seigneur Jésus était sans génération, sans famille, sans descendants. Mais il va avoir une semence, le fruit de ses souffrances. Donc c'est une autre façon pour interpréter ce mot « génération ». Sa génération, qui la racontera? Tous ceux qui sont liés à lui, le psaume 24 nous parle de cette génération pure qui est associée à ce Messie. Donc, c'est un verset qui nous parle d'un côté de la vie du Seigneur Jésus, de ce mystère qu'il est Dieu lui-même, mais d'un autre côté aussi, d'un autre mystère, qu'il a maintenant une génération, une famille après les souffrances. Maintenant, le verset 9, on lui donne son sépulcre. De nouveau, on va voir l'intervention de Dieu. Ce que l'homme a fait d'un côté, ce que Dieu a fait. Il y a un verset, si vous voulez étudier ce verset et méditer là-dessus, acte 2, verset 23. Là, on voit que Pierre dit, vous êtes des meurtriers du Messie. Et au même verset, il dit que c'était selon le conseil de Dieu. Acte 2, verset 23. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre et saisir vraiment. Le côté de l'homme, selon le côté de l'homme, l'homme était des meurtriers. Les hommes étaient des meurtriers du côté de Dieu. Dieu se sert de l'œuvre de l'homme pour accomplir son conseil. Parce que c'était selon son conseil que le Seigneur Jésus est mort, que le Seigneur Jésus a été crucifié, qu'il était sous le jugement de Dieu lui-même. Donc souvent, vous voyez, dans la parole de Dieu, on voit ces deux côtés. Seulement Dieu comprend ceci, la responsabilité de l'homme et la souveraineté de Dieu. Et on voit dans ce verset vraiment un très bel exemple de ceci. L'homme voulait avoir le corps du Seigneur Jésus pour le mettre dans la vallée des fils de Hinnom. Vous voyez, ils avaient les Sadducéens, les pharisiens, toujours des ennemis entre eux-mêmes. Maintenant, ils étaient des amis ensemble contre le Seigneur Jésus. Ils avaient préparé une place où les brigands étaient pas enterré, mais juste laissé pour que les oiseaux viennent pour manger leur corps, pour que ces corps soient brûlés aussi, d'une façon ou d'une autre, cette place où les poubelles de la ville étaient déposées. C'était la place que les hommes avaient préparée pour le Seigneur Jésus. Une chose horrible. Mais Dieu veille ici sur le corps du Seigneur Jésus, comme Dieu a veillé même sur la croix, sur son corps. Vous voyez, c'est vraiment l'intervention de Dieu. Lorsque Nicodème et Joseph d'Arimathée sont venus pour demander le corps du Seigneur Jésus, Pilate était tout étonné que le Seigneur Jésus était déjà mort. Souvent, ses corps étaient là sur la croix dans les pays orientaux pendant des jours, mais à cause de la fête et aussi à cause de la loi qui interdit que les gens soient exposés durant quelques jours à la croix. À cause de ça, les souverains chefs sont venus pour demander les corps, pour les avoir, les enterrer ou déposer dans cette place. Mais le Seigneur Jésus avait déjà donné son esprit, comme on le lit dans Luc 23. Il avait donné sa vie, comme il le dit dans Jean 10. C'est l'intervention de Dieu, mais aussi l'intervention de Dieu pour lui donner une place d'honneur selon les coutumes dans ces pays-là. La place que les gens avaient dans leur mort était très importante, parce que s'ils avaient une place d'honneur, ça leur donnait beaucoup d'honneur aux yeux des gens. Les pharaons, dans les temps avant, avaient préparé des tombeaux. Ils ont travaillé des années pour avoir un très beau tombeau, des pyramides qu'ils avaient préparées. Donc, c'était pour leur honneur. Et ainsi, on voit que Dieu veille sur l'honneur de son serviteur. Dieu a permis maintenant, verset 9, qu'il soit avec le riche dans sa mort. Et dans les évangiles, on a 4 références. C'est très intéressant de les lire. Dans Matthieu, lorsque là on voit le Seigneur Jésus comme le roi, et Joseph d'Arimathée est présenté comme un homme riche et un vrai disciple du roi. Dans Marc, on le voit d'une autre façon. Il était là un conseiller. Dans Luc, on le voit de nouveau d'une autre façon. Et dans Jean, il est venu avec Nicodème pour prendre le corps du Seigneur Jésus, pour le mettre dans ce sépulcre avec tous ces parfums qu'ils avaient préparés. C'est pour honorer le Seigneur Jésus. Et on voit donc ici l'intervention de Dieu. C'est très remarquable si vous voyez comment de prophéties de l'Ancien Testament étaient accomplies dans quelques heures. C'est donc, du point de vue humain, c'est impossible, d'un point de vue mathématique, que toutes ces prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissent dans quelques heures, dans une seule personne, seule place. C'est incroyable. On voit donc là l'intervention de Dieu. Mais de notre côté, on voit que Dieu laisse faire les hommes. Et les soldats ont fait ce qu'ils voulaient. Les gens qui ont entouré le Seigneur Jésus ont fait ce qu'ils voulaient. Apparemment, tout se déroulait selon le plaisir de l'homme. Les soldats, tout ça. Mais de notre côté, on voit que Dieu a veillé sur tous les détails. Les soldats ont fait exactement ce que Dieu avait prédit. Les chefs ont fait exactement ce que Dieu avait prédit. Nicodème et Joseph d'Arimathée ont fait exactement ce que Dieu avait préparé. Et en même temps, ils l'ont fait de leur degré. Ils n'ont pas étudié les Écritures et vu, mais maintenant on doit faire ça, maintenant on doit faire ça. Non, c'était ce que Dieu a préparé dans leur cœur, mais selon leur propre exercice, propre mouvement. Et le prophète fait la conclusion parce qu'il n'avait fait aucune violence. Vous voyez, pourquoi est-ce que Dieu a veillé sur le corps de son fils, sur ce corps saint, ce sacrifice? Il était le sacrifice pour le péché, quelque chose d'horrible pour Dieu, mais en même temps, son corps était saint. L'œuvre était accomplie. Et Dieu ne voulait pas se débarrasser de ce corps comme les pharisiens le voulaient. Dieu voulait lui donner cet honneur. Et dans cette place, dans ce sépulcre, il l'a honoré. Donc, c'est l'intervention de Dieu. Dans sa providence, comme il a contrôlé tous les détails, toutes les circonstances, on voit donc aussi la souveraineté de Dieu, que lui est absolument en contrôle. Il se sert de Pilate, de Nicodème, de tous ces gens-là, juste pour accomplir ses plans. Donc, on a maintenant la pensée de la mort du Seigneur Jésus, son sépulcre et sa mort. C'est donc une étape nouvelle. On a vu la vie du Seigneur Jésus, au début du chapitre, ses souffrances pendant sa vie. On a vu ce que l'homme a fait dans ses dernières heures, même ses premières heures sur la croix, ces 3 heures. Et on a vu aussi ces 3 heures sombres, toutes des étapes, maintenant une nouvelle étape, sa mort. Il était avec le riche dans sa mort. Mais Dieu a veillé sur son corps, sur la gloire de son serviteur. On pourrait suggérer, dans toutes ces circonstances, pendant sa vie, jusqu'à la mort, Dieu souverainement agit et veille sur son serviteur. Dieu n'a pas permis qu'il soit mort, mis à mort. Déjà dans Luc 4, les ennemis voulaient le mettre à mort. Dieu ne l'a pas permis. Ici, Dieu l'a permis, mais c'était aussi court que possible, pour ainsi dire. Dieu est intervenu tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? L'intervention de Dieu. Avec ça, je voulais terminer. C'est vraiment le sujet de notre session d'aujourd'hui. L'intervention de Dieu. On le voit donc en rapport avec sa venue. On l'a vu déjà au début du chapitre. Il est venu incognito, comme un roi incognito. Mais c'était en même temps le bras de l'Éternel. C'est l'intervention de Dieu en rapport avec sa venue. Un peu plus loin, on a vu l'intervention de Dieu en rapport avec sa vie. Lui était là, sur la terre, comme une racine sortant d'une terre aride. Il a reçu toutes ses ressources de Dieu. C'est l'intervention de Dieu qui a supporté ce serviteur pendant sa vie. Dieu l'a soutenu pendant son ministère. Verset 4, certainement, lui a porté nos langueurs. C'est Dieu qui l'a supporté pour qu'il puisse porter tout ça. Dans Matthieu 8, on le voit. Comment il était Dieu lui-même. Et Dieu l'a supporté. Donc, d'un côté, on pourrait suggérer aussi l'intervention de Dieu pour supporter son serviteur pendant son ministère. On a vu dans verset 8 l'intervention de Dieu en rapport avec ce jugement, en rapport avec sa mort. Dans le verset 9, on a l'intervention de Dieu en rapport avec son ensevelissement, une place avec le riche. Et la première session que nous avons eue, on a vu l'intervention de Dieu en rapport avec la résurrection. Vous voyez, on a vu exalter, élevé et placé très haut. C'est ce que Dieu a fait avec son serviteur. L'intervention de Dieu en rapport avec sa résurrection, son ascension, son exaltation. Et la prochaine fois, Dieu voulant, on espère voir l'intervention de Dieu en rapport avec son règne futur. Dieu va honorer son serviteur. Il dit « mon serviteur ». Et Dieu va honorer son serviteur dans son règne futur. Donc, tous ces aspects différents de l'intervention de Dieu. Ça nous montre que ce chapitre, vous voyez, est tellement riche. Tous ces aspects différents des souffrances du Seigneur Jésus. Tous ces aspects différents de l'intervention de Dieu. Tous ces aspects différents aussi de ce que l'homme a fait. Ce que l'homme a pensé. Ce que l'homme a exprimé en rapport avec le Seigneur Jésus. C'est un chapitre, je pense, je suis convaincu. L'Esprit Saint va se servir de ce chapitre pour toute l'éternité. Pour produire de l'adoration, de louange de nos cœurs pour honorer ce serviteur merveilleux.